15h01, vous écoutez le retour à Boulevard 102.1. Un petit peu plus tôt dans le show, je vous ai posé une question au 418-971-1021. C'est en lien avec un petit palmarès qui a été fait par la plateforme Airbnb par rapport aux 10 quartiers les plus cools au Canada. Puis nous autres, à Québec, on est chanceux. On a un de ces quartiers-là. Puis Antonine, on demandait un petit peu plus tôt donc aux auditeurs, vous pensez que c'est quel le quartier de Québec qui se retrouve dans ces fameux quartiers-là, les plus populaires? Il y a une personne qui l'a eu. On a reçu plein de réponses. On a
Mais je pense qu'il niaisait.
Ouais, c'est ben oui, surtout avec la raison qu'il a donnée. Tu sais, on a reçu évidemment Saint-Sacrement. Quelqu'un nous a dit Sainte-Foy, tu sais, transport en commun, les hôtels, le petit Champlain, Saint-Sacrement, je pense que je l'ai dit. Mais je pense que le nom qui nous vient en tête de quartier en premier, bon, quelqu'un dit Val-Bélair. Non, Christian, c'est pas Val-Bélair.
Niaise, là, mais c'est correct.
Tantôt, la personne nous avait écrit « Ah, c'est Saint-Sauveur, c'est là qu'il y a la meilleure dope. » Je sais pas c'est quoi les critères des Airbnb.
Ben d'abord, juste vous dire, c'est le top 10 des quartiers les plus cools. Donc, c'est pas les plus touristiques. Donc, pensez pas Vieux-Québec, Petit-Champlain nécessairement. Donc, on sort un peu du cadre normal touristique.
Puis cool, c'est très subjectif, s'entend. Là.
Mais tu sais, le Vieux-Québec, j'aime beaucoup ça, là, mais c'est pas cool. Là,
en même temps, ça dépend de la définition du mot cool. Moi, je trouve ça cool, le Vieux-Québec.
En fait, quand je regarde l'article qui est écrit par Airbnb, vraiment, ce que les gens recherchent de plus en plus, c'est d'habiter dans des quartiers plus authentiques, entre guillemets. C'est sûr que, tu sais, par exemple, le Vieux-Québec, le Petit-Champlain, c'est touristique. Ouais. C'est fait pour les touristes. De plus en plus de voyageurs veulent avoir une expérience plus locale, vivre comme les gens de la place, donc vont chercher des quartiers où c'est pas nécessairement des restos trappe à touristes, c'est des vrais restos que les gens apprécient, des cafés, etc., pour vivre une vie de quartier qui est pas là, t'as ton appareil photo dans le cou, puis un sac banane autour de la taille, puis tu visites les choses qu'on a préparées pour toi, puis t'embarques dans le gros autobus rouge là, pour visiter. Donc maintenant que ça c'est dit, quel quartier nous vient en tête spontanément pour vivre l'expérience Québec, mais sans tomber dans les trappes à touristes? Ben là, c'est sûr que tu as des idées différentes.
Sans tomber dans Saint-Roch non plus.
Ben, regarde, tu vois, là, il y a Camille qui nous écrit « Limoilou, car il y a de tout ». Moi, c'était le quartier que je pensais qui allait peut-être se démarquer. Il y a quelque chose de cool à Limoilou, là, tu sais. Il y a des beaux petits endroits, il y a des parcs, etc. Mais non, je vais vous faire le top 10 très, très rapidement à travers le Canada. Il y a un quartier à Vancouver qui s'appelle Hastings Sunrise, North End dans Kelowna au BC, Shaganapi à Calgary, McKernan à Edmonton. Tu sais, c'est pas des endroits qu'on connaît beaucoup parce que, justement, on sort un peu du cadre. Central Boniface à Winnipeg.
Allez, voyager
à Toronto.
Voyager à Winnipeg, faut que ça tente.
Là. Faut que ça tente, mais en ce moment, les gens, ils cherchent des destinations locales. Puis quand une fois, t'es allé à Sandbanks, puis que... T'sais, bon. Fait que les gens cherchent un peu des trucs canadiens, mais différents, dans le contexte où on a un petit peu moins envie de voyager aux États-Unis. Je termine la liste avec The Glebe à Ottawa, que je connais pas non plus, et Downtown Halifax, qui est un petit peu plus connu comme tel.
Glebe à Ottawa, c'est quand même cool. Par exemple, c'est pas loin de la place TD. T'es à peu près dans le centre-ville ou pas trop loin. Puis je pense que je ferais un lien entre The Glebe à Ottawa puis le quartier Saint-Sauveur à Québec.
Oui.
Je pense que c'est ces comparaisons-là où t'es peut-être plus dans là où le monde local va vivre, mais t'es collé aussi sur le centre-ville.
Oui, effectivement. Puis je pense que ça se qualifie dans ce que je disais un peu plus tôt, là, pour vivre
exact.
Un petit peu plus l'expérience ottavienne authentique. Il y a d'autres noms de quartiers qui rentrent, là, des gens, mais je pense aussi c'est un peu des blagues, mais Val-Bélair, Vanier, Wendake, qui aurait pu, mais qui est quand même assez touristique aussi,
ouais.
Somme toute. Je pense que c'est devenu un incontournable pour les touristes. Il y a des gens qui disent Saint-Roch. Limoilou revient également de nouveau. Donc, d'abord, il y a un quartier à Montréal qui a été identifié par Airbnb.
Que je connaissais pas.
Ben moi non plus. Puis Mathias, tu nous diras si toi, tu connaissais le 1000 carrés doré, le Golden Square Mile à Montréal.
J'ai aucune idée.
Alors, c'est au pied du Mont-Royal, côté sud-est, dans lequel on va retrouver, par exemple, l'Université McGill, le Forum, le Musée McCord, le Club Saint-James, l'Hôpital Royal Victoria.
Le Musée des Beaux-Arts est là-dedans.
C'est très beau, avec une architecture très anglaise. C'est un quartier à influence très, très anglaise, mais c'est vraiment pas très loin du centre-ville.
Non, ben non, puis même, je suis en train de checker, c'est quoi factuellement les limites du carré. Ça va quasiment jusqu'au Centre Bell.
Ben, c'est ça, là. Donc, on est quand même... On sort pas trop de ce qui est classique au centre-ville à Montréal.
T'as une bonne portion de Sainte-Catherine-Ouest qui est direct dedans. Là.
Et le quartier qui a été retenu à Québec, c'est Saint-Sauveur. Puis moi, ça m'a quand même surprise, parce que moi, j'ai vécu dans Saint-Sauveur en passant, là, quand j'étais très, très jeune.
Puis là, tu t'es Saint-Sauvé.
Je me suis sauvée de Saint-Sauveur. C'est un secteur, bon, pour ceux qui connaissent moins Saint-Sauveur, quartier de la Basse-Ville, un quartier dit ouvrier historiquement, très, très dense. Hein? C'est un quartier où, moi, ce qui me frappe toujours à Saint-Sauveur, c'est tu vas voir des duplex, des triplex, des blocs qui sont très, très proches du trottoir. Il n'y a pas énormément de grands terrains avec des résidences avec des grands terrains, quoique ça dépend évidemment des secteurs dans Saint-Sauveur. Beaucoup de bons petits restos dans Saint-Sauveur, ça, c'est vrai. Je pense au Tao, notamment, à Julio Taqueria. Il y a plein de restos asiatiques aussi.
Je pense que c'est le secteur plus est de Saint-Sauveur, là, à l'ouest. Pas mal plus mollo, on s'entend, là, quand t'es plus vers le... pas loin du parc industriel de Jean Talon. Hein.
Oui, effectivement. Moi, mon endroit préféré dans Saint-Sauveur, c'est le magasin La Tulipe, mais ça, c'est une autre histoire. Je pense pas que les touristes, ça les intéresse nécessairement beaucoup.
Les danseuses, tu dans Saint-Sauveur?
Je pense pas, c'est
ben,
sûr.
C'est pas loin de l'Arsenal. C'est pas au bord de la rue de l'Arsenal.
Hey, je connais pas assez ça. Je compte sur vous pour me dire ces choses-là.
D'après moi, oui.
Bon, écoute, ça peut être un argument pour certains touristes. Mais tantôt, on se demandait comment ils ont fait leur choix. C'est sûr que Airbnb, c'est des plateformes de location d'appartements, de condos, de maisons. Dans Saint-Sauveur, on a vu beaucoup de gentrification dans les dernières années. Donc, des duplex qui sont flippés puis qui sont super beaux à l'intérieur. Des jeunes familles qui se sont, ou des jeunes couples professionnels qui se sont installés là, qui ont rénové des blocs appartements qui n'étaient peut-être pas là, super glamour au départ, mais on a vraiment ce phénomène-là. Je ne suis pas surprise de savoir qu'il doit y avoir des Airbnb intéressants dans le quartier.
Surtout si je t'apprends que Lady Marianne semble vraiment être là dans le quartier Saint-Sauveur.
Bien là, tu viens de régler l'argumentaire. Là. Ça, c'est sûr. Fait que je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, si je devais recommander un quartier, là, mettons qu'on me dit...
À
Québec, puis que la personne elle me dit « je ne veux pas être dans le quartier touristique, qu'est-ce que tu me recommandes pour vivre la vie de quartier? » Moi, c'est sûr que c'est Montcalm qui me viendrait plus en tête.
Mais encore là, pour moi, ça revient quasiment au même... Ben non, je pense que je préfère en effet Montcalm que Saint-Sauveur. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment la proximité d'être proche du centre-ville sans être dans le centre-ville.
Ouais, c'est vrai.
Moi, peu importe où je vais, dans quelle ville je vais. Tu sais, à Montréal, j'aime ça être collé sur le centre-ville, pouvoir y aller à pied, mettons, en dedans de 25-30 minutes, sans nécessairement être pogné dans le centre-ville.
Exact.
Avec des personnes en situation d'itinérance qui crient toute la nuit à travers les fenêtres.
Ouais, pour avoir une bonne nuit de sommeil et te sentir en sécurité. Ben, je pense que c'est un peu la même chose à Québec. T'sais, c'est sûr que Saint-Roch, c'est un quartier où il y a plein de restos, il y a plein d'affaires, mais c'est sûr qu'il y a des petites problématiques d'itinérance et de toxicomanie aussi. Saint-Sauveur, c'est quand même plus tranquille. Oui, c'est un quartier ouvrier, mais c'est pas un quartier où tu te sens pas en sécurité. Moi, je pense que c'est effectivement un lieu où est-ce qu'on se sent bien en sécurité. Puis pourquoi je plaide pour le quartier Montcalm, c'est parce que je pense que ça remplit les critères que tu viens de dire. Tu peux te rendre dans les principales attractions, tu as accès à beaucoup d'éléments culturels, musées, salles de spectacle, théâtre, etc. Des parcs aussi, tu sais, évidemment, dans Montcalm, t'es le parc des Champs de Bataille, là, c'est quand même pas inintéressant. Puis tu peux aller dans des petits restos qui sont fréquentés par des gens locaux, qui sont pas des restos qui vivent seulement par le tourisme. Puis ça, généralement, c'est quand même un gage de qualité supplémentaire. Il y a un auditeur qui écrit « On n'a pas tous la même définition de cool ». Effectivement.
Mais non.
La conclusion de tout ça, c'est que ça dépend de vos besoins à vous. Mais j'ai trouvé intéressant, je trouvais que Airbnb sortait un peu des sentiers battus avec leur top 10.
C'est intéressant parce que là, on parle de voyage, de rester à l'intérieur du Canada. On parlait du petit quartier à Montréal, d'ici même à Québec. Puis dans la presse aujourd'hui, il y a un papier de Maude Goyer qui nous parle des micro-vacances qui, pour certains, viennent remplacer les longues vacances. Les micro-vacances, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est de prendre... En fait, c'est carrément d'étaler tes vacances sur l'année. Fait que tu vas prendre, des fois, tes vendredis au courant de l'été. Tu vas prendre des petits deux jours de vacances au mois de novembre. Au lieu de prendre un deux, trois semaines, un mois l'été, puis après ça, t'en as quasiment pas le reste de l'année, ben tu viens étaler ça vraiment au courant de l'année. Moi, je savais pas que je prenais des micro-vacances. Je l'ai un peu appris aujourd'hui parce que moi, c'est ça.
C'est toi
que...
qui as inventé ça, dans le fond.
Ben, je pense que oui. Mm. Non, parce que moi, c'est niaiseux, mais mes vacances, là, mes journées de vacances, j'y prends beaucoup pour aller voir des shows à Montréal, mettons. Un show le mardi soir, ben, je vais prendre mon mercredi matin. Fait que, tu sais, moi, ça n'a même pas rapport avec les colis ces fins de semaine. Je prends ça les lendemains des spectacles parce que quand tu vas voir un show à Montréal puis qu'il faut que tu rentres à la job à 4 heures le lendemain matin, c'est semi. Fait que moi, j'étais un gars de micro-vacances, puis je m'en faisais...
Ben moi, je m'excuse, Max, mais c'est pas des vacances. Ça s'appelle un congé.
Oui,
tu comprends? C'est parce
oui,
qu'à un moment donné,
raison.
J'écoutais ça, puis je me disais... Ben, je t'écoute parler, puis je me dis... Tu sais, puis on en parle souvent, là, on a de la misère à décrocher. Là. On est des gens très passionnés par nos jobs.
Non, moi, je suis pas capable, oublie ça.
T'es pas capable, ben, t'appelles, tu nous appelles pendant tes vacances pour intervenir dans le show comme Denis. C'est correct, mais moi, j'ai vraiment... de la misère à décrocher. Je pense pas que tu décroches, évidemment, quand tu pars une journée, deux journées en vacances, que je mets vraiment entre guillemets.
Je décroche absolument pas.
Mais tu ressens pas le besoin
non, c'est ça, moi,
de le faire.
Moi, pour moi, de me dire, hey, je vais dépenser une de mes journées de vacances pour aller voir un band que j'aime à Montréal, puis passer une belle soirée à Montréal, puis sortir après le show, puis sans avoir à me soucier du lendemain matin.
As-tu pris des vacances de plus de deux semaines depuis que tu travailles ici, mettons?
Mon deuxième été, je pense que j'avais pris un genre de trois semaines parce que dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement de job clair vraiment. Fait que je faisais beaucoup d'heures. Puis dans ce temps-là, il me permettait d'accumuler mes heures, ce qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de vacances.
Puis quelle différence tu fais, tu vois, entre prendre tes micro-vacances ou cette fois-là, où est-ce que tu as vraiment pris des vacances plus continues?
Ben, on dirait qu'à cette heure, j'en ai pas de vacances.
Ben, oui, mais tu ressens...
C'est un peu ça le point.
Tu ressens pas le besoin d'en avoir à un moment. C'est plus ça la question, parce que des
pas
fois, juste de pouvoir s'aérer l'esprit, même si c'est pendant une semaine,
mais
je trouve que ça fait une différence sur l'humeur que t'as au travail en général ou l'humeur que t'as dans la vie.
C'est un air de bœuf, on va se le dire.
Non, mais c'est...
Non, mais mettons, au début de l'été, moi, je prends tout mes vacances aux mêmes places. J'ai... quelques jours, plusieurs jours que je sépare dans l'année. Cette année, c'est la première année que je prenais des genres de vraies vacances dans le temps des fêtes. Je pense que c'est les plus longues vacances que j'ai eues depuis 4 ans. Puis j'avais genre une semaine et demie, deux semaines.
Ouh.
Mais à part ça, je prends une semaine entre la Saint-Jean puis le 1er juillet. Là, c'était fucké un peu cette année. Là.
Mm-hmm.
Mais ces semaines-là, puis j'en reprends une la première d'août. Fait qu'un début de l'été... Puis tu sais, je sais que celle au début de l'été, je n'avais besoin, là. Comme là, j'étais brûlé, puis comme ça faisait longtemps... En fait, j'avais jamais vraiment vécu ça de ma vie, là, d'être brûlé, puis de me dire, OK, là, j'ai besoin de
vacances.
Faut que j'arrête. Ouais. Là, cette semaine-là m'a vraiment fait du bien, puis je l'ai senti. Mais à part ça, ça m'était jamais vraiment arrivé de me retrouver à un point où je me dis, j'ai besoin de vacances.
Ouais, puis profites-en, parce que cette flexibilité-là, c'est sûr que le jour où tu as des enfants, ben là, les choses changent.
Ça rentre par texto aussi,
oui,
c'est clair.
Parce qu'à un moment donné, tu finis par te coller aussi sur le calendrier scolaire. Bon, il faut que tu passes du temps avec tes enfants aussi, que
oui,
tu les vois pas, puis là, tu les aimes. Fait que tu veux les voir. Fait que ça, c'est correct aussi. Moi, je suis travailleuse autonome. C'est extrêmement difficile de décrocher puis de prendre des vacances.
Ben moi, je suis pas capable.
Ben écoute, je peux pas te dire que je suis capable. J'y travaille. Puis là, tu vois, à Noël qui vient de passer, j'avais prévu, dans toute ma bonne foi et mon optimisme, prendre 4 semaines de vacances parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de vacances.
Rappelle-nous ce qui s'est passé dans le temps des fêtes en politique.
Tout s'est passé. Christian Dubé est parti, François Legault, ça arrêtait plus une seconde. Fait que j'ai finalement réussi à prendre un bon 2 semaines en continu. Et je suis partie en voyage, qui arrive pas très souvent non plus. Et là, j'ai décroché. Tu sais, genre, j'ai mis mon cellulaire dans le coffre-fort à l'hôtel. Mais ça m'était pas arrivé depuis 2 heures.
Ça devait tellement te faire du bien.
Ben, j'étais comme une droguée, là. Tu sais, le premier 24 heures, je souffrais, là, physiquement. Et après ça, j'ai vraiment vu les bénéfices de décrocher pour vrai. Puis moi aussi, je peux rouler, là, pour toujours, là. J'ai de l'énergie beaucoup, je suis quelqu'un d'extrêmement travaillante. Puis je m'en rends pas compte que ça me manque, les vacances. Sauf quand je les prends.
Bien, puis il y a un expert cité dans le texte de la presse, c'est François Courcy, qui est un professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Puis ce que lui dit, c'est que les micro-vacances, oui, ça peut avoir une utilité, mais ça permet pas de se ressourcer. Puis que les gens qui prennent 2 semaines de vacances le disent tout le temps, la première semaine, tu décroches, mais le vrai repos, le vrai ressourcement, c'est dans la 2e semaine.
Ah, puis je dirais même la 3e.
Non,
là,
c'est
ça. Il y a eu une période de ma vie où je prenais 3 semaines, puis je te dirais que la 3e semaine, tu sais plus quel jour on est, là. Ce moment-là, là, ça fait du bien.
Parce que moi, en vacances, je ressens... tu vois, j'adore mon travail, puis j'aime ça, puis ça roule, mais j'ai pas de difficulté à décrocher. Parce que je sais que j'en ai besoin. Fait que quand je rentre en vacances...
Tu rentres en mode vacances.
Exact. Moi, début de l'été, j'ai eu 1 semaine et demie. Puis j'ai rien suivi pendant 1 semaine et demie.
Ah,
là. Mais quand
toi,
je dis
pas
rien...
dépendant.
Ah non, pas en tout, parce que je sens la surcharge mentale, puis je sais que j'ai pas le choix.
T'es tellement
de le
sage.
Faire.
On devrait prendre exemple sur toi, Mathias.
Non, mais parce que je suis fatigué, puis tout. Puis je sens que je commence à être désagréable à un moment donné. Fait que je suis comme, garde, je mets tout ça de côté, je relaxe. Puis pendant 1 semaine et demie, j'ai rien suivi. J'étais revenu après. Ah, là, c'était le bordel. Je comprenais plus rien. Il y avait eu le fiasco Nordvolt qui était sorti pendant mon départ. Puis là, il y avait plein de choses. Mais pendant la semaine et demie, je m'efforçais à pas ouvrir le journal le matin. J'avais mes notifications de journal, mais j'allais pas dire ouvrir l'application juste pour regarder ce qui se passe ou autre. Parce que... Puis même...
Ouais, fallait que tu changes un peu
fallait
d'air.
Que je change d'esprit, puis j'ai envie de dire, même sur une semaine normale, par exemple, j'arrive en fin de semaine, je vais avoir besoin d'une période dans ma fin de semaine où que je fais juste décrocher, puis pas juste du travail, juste une période où que j'ai rien, où okay. que je me prendre, que ce soit il y a 1 heure ou 1 heure et demie dans ma fin de semaine où que je fais juste m'asseoir puis que je fais rien pendant 1 heure, là. C'est comme j'ai besoin de ça pour pouvoir remettre la Switch à on
mais,
par
mais
la
tu
suite.
Vois, moi, mes vacances, puis je dis pas ça pour rien enlever aux animateurs de retour à la radio, moi, de faire le retour dans mon... d'avoir cet horaire-là...
Ça change d'air déjà un peu.
D'avoir cet horaire-là, de pas avoir à me lever à 3 heures le matin, là, la différence que je vois dans mon énergie, ça a même pas de bon sens, là.
Mais là, ça m'amène à une autre question pour vous autres. Est-ce que c'est vraiment l'été le meilleur moment pour prendre ses vacances? Parce que moi, j'ai pas le choix là, à cause des enfants là, de prendre mes vacances l'été, puis aussi avec les saisons de médias puis tout ça.
Veux-tu qu'on parle de ceux qui vont dans le sud en plein mois d'août? Ça,
ouais.
Je comprendrai jamais.
Écoute-moi,
mais je pense pas que c'est de ça dont tu veux parler.
Ben non, mais c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Moi, mon idéal dans la vie, ce serait de prendre mes vacances genre en novembre puis en mars. En mars, ça coûte cher à cause des semaines de relâche. Dans les deux moments où est-ce qu'on est... brûlé raide, là. Tu sais, où est-ce qu'il fait gris puis qu'on est tanné d'un côté de l'hiver ou bien que l'hiver commence puis on est comme « Oh my God, on s'en va-tu vraiment là-dedans? » Ça serait mon idéal. Puis l'été, moi, je travaillerais, là. J'ai de l'énergie, je suis pas malade, il y a de la lumière, j'aurais pas besoin de vacances.
Mais en même temps, prendre ses vacances en novembre, il y a de quoi de dramatique là-dedans, je trouve, aussi.
Oui, mais tu sacs ton camp, tu t'en vas au soleil,
OK,
là.
Oui. Si tu t'en vas au soleil, oui, mais
ou
si tu
Europe,
restes au
là.
Québec, oui, t'es pas Mossad au travail, mais à la place, t'es Mossad en vacances.
On est d'accord. Faut que tu aies le budget pour partir en voyage. Ouais.
Faut que tu saques ton camp. On a plusieurs textos qui entrent. Bon, certains qui disent pas le choix avec les kids, justement, de prendre les moments. Là, je pense que c'est par rapport à les prendre l'été. Mais la personne le dit. Non.
Ou de décrocher. Peut-être que aussi, c'est quand t'as des enfants, tu peux pas prendre juste des vendredis de congé l'été. Là,
Isabelle qui dit ce que je trouve plate des vacances, c'est que je suis seule et mes amis en couple. Je suis en appartement, pas de piscine, pas d'entretien, de rien. Je trouve le temps long. Fait que je prends des week-ends de 4 jours à chaque mois. Puis après les fêtes, je prends mes lundis de janvier à mai.
C'est vrai, parce que le week-end, les gens sont plus disponibles. Donc, quand tu es une personne seule, lundi, mardi, mercredi, ça peut être plate un peu. Là.
Alex qui dit pour l'instant, tant que je peux, parce que son petit est encore à garderie, les vacances sont en septembre, octobre et février, mars. On dit que... Martin qui dit novembre pour la chasse. C'est vrai que pour les chasseurs, c'est une activité qui peut être le fun.
C'est pas déprimant du tout,
non,
Mathias,
c'est ça.
En passant.
Pascal, depuis que j'ai plus d'enfants, c'est en septembre ou fin octobre à la Saint-Jean et Confédération. Je prends une journée de plus pour faire des 4 jours. C'est ça, faire les longues fins fin de semaine. Ça a l'air d'être assez populaire. Moi, la belle vie en vacances septembre, fait beau, il y a moins de gens seuls, sans enfants, travailleurs autonomes.
C'est vraiment nice. Le mois de septembre, là, il fait beau. Ça coûte moins cher, mais la plupart des gens sont pognés dans la rentrée. C'est pas tout le monde qui peut.
Myriam qui dit « J'ai pris mes dernières semaines en Égypte en avril. Je suis parti, faisait frette à mon retour, faisait chaud. J'ai skippé le temps de boîte, c'était parfait. » C'est vrai que partir en vacances en avril, tu pars, puis c'est lettre, puis tu reviens, puis c'est rendu beau. Ilsa, allô, moi, mes vacances, j'aime les prendre au mois d'octobre pour faire de la randonnée.
Oui.
Avec les, octobre, il y a les belles...
Les
Prenez des notes, puis il n'y a pas une bonne façon de faire. Moi, je pense que je vais continuer de prendre des petites journées de temps en temps, des mercredis pour aller voir des shows. Ça te fait des drôles de semaines. On l'a tout vécu, en fait, cette année avec la Saint-Jean puis le 1er juillet qui nous a fait des très weird semaines. Là.
Mais j'haïssais pas ça, moi, tu vois, avoir congé le mercredi, c'est comme ça vient couper ça, puis...
Ton lundi, t'es un jeudi, puis le mardi, t'es déjà le vendredi.
Non, mais c'est ça quand même. Le lundi, t'es pas fâché de rentrer à job parce que tu sais que le mercredi arrive, puis après ça, le jeudi... Ben, tu sais que la fin de semaine arrive.
C'était lundi, vendredi, congé. Lundi, vendredi.
Ouais, exact.
C'est ça.
Mais
fabuleux.
J'ai presque eu la réflexion, si un jour j'ai à faire des semaines de 4 jours, là, je prendrais presque le mercredi de congé, non le vendredi et le lundi comme plusieurs font.
Vous êtes très actifs au 418-971-1021. Continuez de l'être, toujours un plaisir de vous lire. Au retour, les nouvelles avec Mathias et Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, va aussi venir faire son tour un petit peu plus tard. Vous écoutez le retour à Boulevard avec Antonine, Mathias et Max.
Le retour.
15h27, vous écoutez le retour de Boulevard à Boulevard 102.1. Mathias Turcotte, Antonine Iaccarini et Max Larouche qui vous accompagnent. Et Mathias, on va aller faire un tour avec les grosses nouvelles de la journée avant d'accueillir Sam Tremblay-Michaud en studio, chroniqueur auto dans les prochaines minutes. Ça fait que si vous avez des questions pour Sam, d'habitude vous en avez pas mal, 418-971-1021 par texto. Vous pouvez tout de suite commencer à nous envoyer ça. Mathias, aux news.
Je commence par le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui sort finalement de sa caverne. Il n'a pas été très actif cet été. Eh bien, demain matin, il va nous présenter sa vision des relations canadiennes. On a très peu de détails concrets pour l'instant dans ce que rapporte TVA, mais ce qu'on comprend, c'est que ça va être 4 engagements formels qui vont être présentés devant le consulat américain dans le but de contrer les tarifs de Donald Trump. On sait qu'il est de retour à la charge avec des menaces tarifaires de 50%. L'essence de son message sera de tendre la main, de rebâtir des alliances. Donc, on peut s'attendre à un message qui porte beaucoup sur l'union du Canada qui, selon Charles Milliard, sera une force dans cette guerre tarifaire-là face aux États-Unis. On a développé certains points, là, quel rôle que le Québec doit jouer dans ce contexte politique-là, économique, instable, mais il n'y a rien de concret qui est ressorti. On espère en savoir un peu plus demain lors du point de presse. Ottawa élargit dès aujourd'hui le renouvellement de passeports en ligne à tous les adultes éligibles de partout au pays. C'était un service qui avait été rendu disponible en quelque sorte en essai. On avait une limite de 1500 demandes en ligne par jour justement pour faire des demandes de renouvellement de passeport. Donc, c'est vraiment pas pour avoir un passeport nouveau lorsque tu n'en as jamais eu un. C'est si jamais tu as déjà eu un passeport et que tu veux le renouveler. À partir de maintenant, tu pourras le faire en ligne et ça sans attendre dans une ligne d'attente qui va te dire « OK, demain, tu vas pouvoir réessayer ». Non, à partir de maintenant, tous les Canadiens qui veulent le faire pourront le faire. La chasse à l'homme à Shawinigan qui se poursuit. On recherche toujours Philippe Benoît, 41 ans, qui est soupçonné d'avoir tué son propre fils. On est à la 3e journée et on a de nouveaux détails. En 2014, l'homme qui a été inculpé pour menace de mort sur son ex-conjointe et sur son fils, des allégations qu'il a niées à l'époque. L'homme qui a aussi reçu un diagnostic de schizophrénie, de phobie sociale. Malgré tout ça, le tribunal qui a dit « OK, s'il reçoit la médication adéquate, cet homme-là pourra reprendre contact avec son fils ». C'est finalement dimanche qu'on a retrouvé le cadavre du jeune homme de 16 ans au sein de la demeure de son père, Philippe Benoît, qui est recherché dans cette affaire-là comme suspect. On nous indique aussi que l'homme commençait à avoir des comportements étranges, lui qui n'avait pas mangé ni dormi depuis 4 jours avant les événements. On a eu de grandes visites à la Maison-Blanche aujourd'hui. commencer par le premier ministre israélien qui a rencontré le président américain Donald Trump. Benjamin Netanyahu et Donald Trump qui ont qualifié la réunion d'extrêmement positive et qui ont tenu à réaffirmer leur refus de voir l'Iran se doter d'une arme nucléaire. On n'a pas nécessairement de nouveau qui est sorti de cette rencontre-là. Et également une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a porté entre autres sur le fait que l'Ukraine veut obtenir une licence pour la production d'intercepteurs Patriot qui sont utilisés à la défense contre des missiles balistiques. Le président ukrainien qui a salué la bonne rencontre avec le président Donald Trump. Et je termine avec le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, qui va se rendre aux États-Unis cette semaine. On n'a pas nécessairement la journée ni qui il va rencontrer, mais la rencontre, les différentes rencontres qui vont porter sur les nouveaux droits de douane des États-Unis qui devraient arriver au cours du mois prochain.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, Prime Video et Rogers Communication ont annoncé une entente de 12 ans qui fera de Prime Video le diffuseur exclusif au Canada des matchs du mercredi soir de la LNH en saison régulière en anglais et en français dès la prochaine saison. Prime Video qui obtient aussi les droits exclusifs de diffusion au Canada de certaines séries des éliminatoires de la Coupe Stanley, deux séries de première ronde et une série de deuxième ronde chaque année. L'entente qui prévoit aussi la diffusion d'au moins 26 matchs nationaux de la LNH en saison régulière. Ces matchs-là qui seront offerts exclusivement sur Prime Video au Canada, sans frais supplémentaires pour les membres Prime. Dans la NFL, le plaqueur défensif des Eagles de Philadelphie, Jalen Carter, a signé une prolongation de contrat de 4 ans, 152 millions, un montant de 106 millions garanti. Dans la MLB, victoire de 3-2 des Blue Jays de Toronto en ouverture de série face aux Nationals de Washington hier, mené par le vétéran Max Scherzer à son retour au jeu, deuxième match de la série ce soir. Et les Capitales de Québec sont de retour en action ce soir avec une série de 3 matchs à Trois-Rivières qui s'amorce. Du 13 au 16 août, le Festibiaire de Québec qui vous fera goûter l'été au quai de l'espace 400e. Cet été, on vous offre une belle programmation musicale avec, entre autres, la Grand-Messe, qui est un gros hommage aux Cowboys fringants. À mon bien humble avis, le meilleur gros hommage aux Cowboys. Il y a Jay Scott aussi qui sera là, Gab Bouchard et bien plus. Plus de fun, plus de saveur, plus de diversité et bien sûr, de la bonne bière de micro. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard. Notez l'heure à laquelle vous entendez le signal sonore Festibiaire et inscrivez-le dans la section concours du blvd.fm. Et vendredi, vous pourriez gagner un forfait pour 4 personnes pour profiter pleinement du Festibiaire. Ça inclut 4 verres, 25 dégustations à partager en gang. Boulevard 101 et le Festibiaire, fiers partenaires de vos sorties estivales. Je vous rappelle que Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, viendra faire son tour dans les prochaines minutes. On va parler notamment de l'autonomie de la Kia EV3 et de la Kia EV4. On va jaser aussi du Ford Custom Garage et de Porsche qui supprime 9000 emplois. Mais comme d'habitude, au 418-971-1021, si vous avez des questions auto pour Sam Tremblay-Michaud, faites-vous plaisir. Est-ce que vous vous souvenez, à un moment donné dans le show, je vous parlais du Festibiaire de Québec puis de quelque chose à faire si vous entendez un signal sonore. Si vous en souvenez pas, peut-être aller passer quelques tests. Mais je dis rien.
C'est l'heure.
15h38 minutes. Dans le retour à Boulevard 102.1, je rappelle cette veille d'orage violent à Québec. On nous dit que les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle et de la pluie forte cet après-midi et ce soir. Pour l'instant, ça a l'air d'être encore beau. J'ai même pas vu de gouttes, en fait. Il y a eu des gouttes?
Oui, mais vraiment, là, genre 3. 3 gouttes.
OK, bon. Ben si vous voyez des gouttes dans votre secteur aussi, et surtout des éclairs, hein, parce que ça, vous savez que ça m'excite beaucoup, merci de nous en faire part au 418-971-1021 et on pourra propager l'information. Même affaire, s'il se passe de quoi sur les routes, ça aussi, on veut le savoir. Présentement, dans les deux directions, là, Capitale, auteur Robert Bourassa, il y a un bon ralentissement. Capitale-Ouest, notamment, ben c'est ça, auteur après Robert Bourassa, la voie droite qui est bloquée en raison d'une panne. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des voyeux de l'autre bord qui ralentissent pour checker. Là. On sait que souvent, c'est ça qu'on fait. Mais bref, dans les deux directions, Capitale, auteur à peu près Robert Bourassa, c'est pas pire jamais. Et sinon, à Lévis, il y a la 20 Ouest ou dans le coin de Chemin des Îles, ça ralentit. Tant qu'à parler de ce qui se passe sur les routes, on a le plaisir de recevoir Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile en studio. Salut Sam!
Bonjour!
Fait que là, tu reviens d'un beau voyage aux États-Unis?
Oui, bien, je suis allé la semaine dernière, je vous ai parlé en direct de l'aéroport.
Oui, c'était très bien.
D'ailleurs, fait cocasse, tout de suite après l'entrevue qu'on a fait ensemble, il y a une souris qui est tombée du plafond.
Impossible.
Ouais. À côté de moi, il y a une grosse souris qui est tombée de la trappe de ventilation
exactement
où je faisais à Montréal-Trudeau.
Voyons donc.
C'est vrai?
Ouais, ouais, non,
tu m'aurais dit, je sais pas, là,
genre une seconde, je vous parlais une seconde avant, puis la souris est tombée comme une seconde après, mais une chance que ça pas arrivé pendant que c'était en onde, parce que j'ai un peu crié, pour être honnête, j'ai vraiment piqué
T'as crié?
Saut. Ben, j'ai piqué un saut, je savais pas c'est quoi qui m'était tombé dessus, tu sais. Le quart, tu te rends compte que c'est une bestiole.
Ah, t'es tombé dessus.
Ben, comme tombé sur mon sac qui était à côté. Là,
ah non, tu fais le saut.
Ben, j'ai juste pogné. J'ai pogné une demi-minute, mettons, là, mais il y a une souris qui est tombée du plafond. J'appelle la souris volante.
Il pleut des souris.
Ouais. À Yule. Donc voilà.
Bon, ben, on devrait voir ça sortir dans les médias d'un prochain jour, là, des souris à
l'aéro. Vous l'aurez entendu
ouais,
ici.
Oui, exact.
La primeur aura été à Boulevard 102.1. Hey, je vous rappelle tout de suite, parce qu'on va faire quelques sujets avec Sam, mais ce que vous aimez, surtout, j'ai l'impression, quand Sam est avec nous, c'est lui poser vos questions. 418-971-1021 par texto. 418-971-1021 par texto. Vos questions pour Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Mais on commence, Sam, en parlant d'autonomie des Kia EV3 et EV4.
Oui, voiture électrique, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais je vous promets que je parle de V8 5 litres après. Fait qu'on va balancer tout ça. Pour les Kia EV3, EV4, c'est deux véhicules électriques qui viennent d'arriver chez le constructeur. Le V4 est déjà en vente actuellement. Et je faisais des recherches pour l'émission RPM. Je suis en train de préparer de la recherche pour un autre véhicule chez Kia, complètement un autre. Et en allant sur le site de Ressources naturelles Canada, j'ai découvert qu'on avait les données d'autonomie pour le V3, qui lui n'est pas encore lancé officiellement au Canada. On l'attend. C'est un petit VUS sous-compact électrique qui va remplacer le Niro, le genre de véhicule que les gens aiment beaucoup. C'est très populaire actuellement, cette catégorie de produits-là. Donc, on l'attendait avec impatience. Puis là, ben, on connaît les autonomies officielles, donc ceux qui vont être rendus publics bientôt par le constructeur. On parle que la version d'entrée de gamme du EV3 va être autour de 356 km. Moi, je m'attends à ce que ça soit un véhicule électrique sous la barre des 40 000 $. Donc, pour un genre de 400 km électrique, je trouve ça quand même assez convenable quand même. Mais lorsqu'on va chercher la version Win tout de suite après, qui, elle, risque d'être plus autour de 40 000 $, donc encore une fois, abordable dans le segment, on va être à 517 km projetés par le constructeur. Donc là, on commence à avoir des chiffres drôlement intéressants parce qu'à ce prix-là, comme je vous dis, là, c'est la projection des prix, je ne les ai pas encore officiellement, mais si on se fie à la stratégie de commercialisation de Kia, qui a la EV3, la EV4 et la EV5 dans son portfolio, la EV3 devrait être dans les plus abordables. Mmh. C'est la première du lot. Donc, devrait se vendre autour de 40 000.
Rappelle-nous, Sam, comment ça fonctionne pour les projections d'autonomie? Est-ce que c'est dans les meilleures circonstances ou on prend comme les moins bonnes circonstances puis les meilleures puis on met quoi dans le milieu?
C'est une très bonne question. À vrai dire, il y a plusieurs types de mesures. Nous, en Amérique du Nord, on se fie à la mesure EPA parce que c'est une mesure qui va aussi considérer les climats nordiques. Donc, dans les tests qu'on va faire, on va faire circuler les véhicules sous la barre des 0 degrés là, pour voir un peu comment ça réagit aussi en hiver. Non, on ne se rend pas à moins 40, mais vous n'allez pas non plus traverser Montréal-Québec tous les jours à moins 40.
Non, donc, c'est
ça. À un moment donné, c'est de faire une moyenne de ça, mais quand même, le test EPA est quand même un test un petit peu plus poussé qui représente mieux nos données. Souvent, quand on regarde le cycle WLTP, qui lui est plus le cycle mondial, les chiffres sont souvent à la hausse. C'est probablement que le V3 fait plus 650 km selon cette norme-là, mais réalistement, ici en Amérique du Nord, avec nos mesures de température, nos dénivelés, les routes qui sont différentes, différente aussi. On a beaucoup plus d'autoroutes aussi, ce qui consomme plus d'énergie pour les véhicules électriques. Ben nous, on se fie vraiment plus à cette norme-là. Donc moi, à 517 km, j'y crois. La beauté, c'est que vous allez probablement faire plus si vous roulez plus en ville. Vous allez peut-être faire un petit peu moins si vous roulez plus fréquemment sur autoroute, mais vous devriez être autour d'un 500 km. Là, je vous parlais d'un véhicule que moi, je projette aux alentours de 40 000 $ dans la catégorie des VUS sous-compacts. Là, c'est pas très long d'arriver à 35, 37, 38 000 $ selon l'équipement qu'on va avoir. Donc, si on est rendu nez à nez, maintenant, dans l'électrique, dans cette catégorie-là, ça commence à être drôlement intéressant.
Ben moi, ça me parle, parce que j'ai pas encore fait le switch. L'autonomie et le prix sont importants.
Ben, c'est la base.
Ça pourrait... Moi, ça ferait la différence pour moi.
Ben, je pense que oui. Puis j'ai l'impression que le constructeur va connaître une année 2027 très mouvementée avec ce genre de véhicule-là. À voir et à suivre. C'est un produit qui roule en Europe déjà. Je l'ai vu de mes propres yeux quand je suis allé dans différents lancements. C'est un véhicule qui existe, qui jusqu'à présent semble montrer une bonne cote. Ça a l'air de bien aller. Mais si Kia réussit à amener ce EV3-là à un bon prix avec ce genre d'autonomie-là, je vous confirme qu'on va avoir à tous les coins de rue. Là.
Les questions qui ont commencé à entrer au 418-971-1021 par texto. Continuez de les envoyer. On va y venir dans quelques minutes. Sam, tu voulais aussi nous parler du Ford Custom Garage.
Oui, ben c'est ce que je t'allais faire la semaine dernière. Donc, je vous ai parlé de pourquoi j'allais au Michigan.
Maintenant, c'était pas chasser la souris. Là.
Non, exactement. J'étais pas Garfield. Donc, mon but, c'était vraiment d'aller là pour faire quelque chose. Et c'était d'aller voir Ford Custom Garage, qui est effectivement une nouvelle division chez Ford. Je dis nouvelle, mais je voulais vous en parler parce que je trouve ça intéressant de voir la stratégie que le constructeur a pris pour la personnalisation de ses véhicules. On va faire une marque parapluie qu'on appelle dans l'univers marketing. Donc, on a une marque qui s'appelle Ford Custom Garage maintenant qui va chapeauter trois sous-marques. On va avoir la marque Ford Accessory qui va pour être pour les tapis d'hiver, ces choses-là assez de base. On va l'avoir Ford Racing aussi qui était auparavant Ford Performance mais maintenant qui s'appelle Ford Racing. Donc, on peut vendre des pièces de performance pour augmenter la puissance d'un moteur V8 5 litres par exemple. On peut avoir un suralimentateur de moteur qui va aller se greffer sur un véhicule qui existe déjà via Ford Racing. Et on a Ford Custom Garage qui va aller pousser encore plus loin en offrant des ensembles tout équipés d'un véhicule. Par exemple, on peut avoir un Ford Maverick SV300T qui vient avec un kit modifié de turbo qu'on a emprunté à la Ford Mustang EcoBoost, un système d'échappement exclusif, on a changé la suspension et compagnie.
Le prix va venir avec, on s'entend.
Oui, les prix ne devraient pas être si pires que ça. Okay. Par contre, parce que moi, ce que j'aime de la stratégie du constructeur, c'est qu'on peut acheter par exemple un Ford Maverick XLT, donc un modèle milieu de gamme, et lui greffer cet ensemble-là. On n'est pas obligé d'aller chercher la version tout équipée pour avoir ensuite accès à l'ensemble de performances. C'est comme une avenue qu'on a déjà vu Ford faire dans le passé. Ça s'est appelé différents noms au courant de l'histoire du constructeur. Mais là, on a comme décidé de faire du gros ménage là-dedans puis de sortir Ford Custom Garage. Moi, j'avais beaucoup de doutes à savoir si ça allait venir au Canada. Je pensais que c'était vraiment juste pour les États-Unis. Mais on m'a confirmé via Ford Canada que les concessionnaires dans la région de Québec et partout à travers le Canada vont être capables de faire les ensembles exclusifs pour les véhicules. Donc, c'est intéressant de voir les stratégies qui peuvent arriver. Je vois aussi l'âge moyen des véhicules qui vieillissent sur le marché. Hein. Les gens conservent plus longtemps leurs véhicules. Donc, des fois, d'aller se remettre un petit peu de sous sur un produit pour le rendre un peu plus performant puis continuer à avoir du plaisir avec, ça peut peut-être nous aider à le garder un peu plus longtemps aussi. Là.
Et finalement, dernier sujet avant de passer aux questions des auditeurs, dans le rayon des moins bonnes nouvelles, là, Porsche qui supprime 9000 emplois.
Oui, ça va s'en venir, puis ça, on s'y attendait. Porsche qui est dans la grande famille Volkswagen, hein, qui est une division qui est très touchée actuellement par les véhicules électriques chinois, la guerre tarifaire, Volkswagen en arrache beaucoup. Donc, Porsche suit le bal également. Donc, d'ici 2035, on va effectivement supprimer 9000 emplois. Ça n'a pas l'air si gros que ça quand on parle d'une entreprise automobile, mais pour Porsche, qui est un manufacturier de véhicules exotiques, c'est quand même beaucoup de monde là, qui va partir de l'entreprise. Deux raisons évoquées, c'est que le marché chinois actuellement est ralenti beaucoup. Il faut savoir qu'il y a plusieurs constructeurs, dont Volkswagen, Porsche, GM également. Il y a des marques comme Ford, il y a des marques un peu partout dans le monde qui ont eu l'opportunité de vendre énormément de véhicules en Chine. Les Chinois ont commencé à acheter massivement leurs véhicules dans les 10 dernières années. On a fait des profits monstres jusqu'à l'effondrement de tout ça il y a un an. On voit la différence de culture ici avec le marché chinois, c'est que ça va suivre la tendance là-bas. Et là, la tendance est actuellement à acheter des marques locales. Donc, les gens achètent des véhicules qui sont faits par des entreprises chinoises comme BYD. On en parle beaucoup dans les médias à gauche et à droite. Donc, ce qu'on a vu, c'est les chiffres s'effondrer de Porsche. On vend beaucoup moins de véhicules. On a également des problèmes avec la transition énergétique, surtout avec les tarifs douaniers de l'autre côté. Ça rend ça vraiment compliqué pour le constructeur. Donc, on va réajuster le tout d'ici 2035. On devrait continuer à avoir des nouvelles de même dans l'industrie automobile. Moi, je pense que c'est une industrie qui est fortement impactée actuellement par tout ce qui se passe en géopolitique et que ça va clairement continuer des mauvaises nouvelles comme ça à gauche et à droite.
Maintenant, les questions des auditeurs au 418-971-1021. Je commence avec Pascal. On regarde pour une deuxième voiture pour la ville. Le nouveau Seltos vaut-il la peine? Je trouve que le changement de look est attirant.
Je comprends, puis voyez-vous, je viens juste de l'essayer. La semaine dernière, c'était le lancement officiel du véhicule. Mon article est disponible d'ailleurs en ligne si vous voulez voir toute ma critique sur ce produit-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vraiment un choix qui est logique, dans le sens que on a revu le Seltos, et je sais pas qu'est-ce que Kia avait mangé ce matin-là, mais ils sont arrivés en se disant, nous autres, on va faire un VUS sous-compact qui va aller dans les talles d'un VUS compact, donc un peu plus gros, beaucoup d'espace à l'arrière, beaucoup d'espace dans le coffre également, mais on a conservé les deux mêmes mécaniques qu'on connaissait déjà très bien du Seltos. 4 cylindres 2 litres de base avec une transmission IVT qui est une transmission à variation continue. Et on a aussi le moteur 1.6 litres turbo qui est plus fiable, drôlement, que le 4 cylindres 2 litres, mais qui est un petit peu plus onéreux, surtout dans les versions X-Line. Moi, ce que je vous invite, c'est de considérer le Seltos. C'est pas de mauvaise idée, mais j'irai pas chercher une version tout équipée de ce produit-là parce qu'on va se ramasser autour de 44 000 $ pour ça. Puis honnêtement, je viens de parler du EV3 qui s'en vient. Si vous voulez un deuxième véhicule, un petit produit électrique comme ça va devenir drôlement avantageux aussi. Donc, si vous voulez considérer le Seltos, moi j'y resterai dans les versions LX, EX, plus de milieu de gamme. Vous allez vous en sortir autour de 35 000 $ pour un produit qui effectivement s'est montré assez polyvalent lorsque j'ai pu l'essayer. RPM, pour le moment, on le met sur évaluation. Il faut le voir, puis mais en même temps, je vous dis, les mécaniques n'ont pas changé. Il n'y a pas énormément de risques avec ce produit-là.
On s'en va dans les voitures un peu plus haut de gamme. Audi Q5 ou Lexus RX 350.
J'irai avec le Lexus RX 350, même que si vous êtes capable d'aller chercher un hybride, allez-y pour. La raison est simple, c'est que le Q5 vient d'arriver, puis honnêtement, Audi ont énormément de difficultés avec ce produit-là actuellement en termes de fiabilité, des problèmes technologiques à gauche puis à droite. Le Q5 était, jusqu'en 2024, le VUS sous-compact qu'on aimait le plus chez RPM, parce que c'est lui qui avait une bonne cote de fiabilité, un rapport qualité-prix qui était solide. Mais la nouvelle génération n'a vraiment pas de la... a vraiment pas le vent dans les voiles actuellement.
Ils en ont
perdu. Ouais, c'est dur.
Et sous question, achat ou location?
J'achèterais le Lexus sans problème. J'achèterais ça, gardez-le à long terme. C'est un produit qui a une excellente valeur de revente. Vous allez payer un peu plus cher, là, mais je pense que ça vaut la peine si vous considérez le garder longtemps.
Question de sauver l'entretien de deux autos et je fais moins de 2000 km l'hiver. J'ai l'intention de conduire mon Mustang 2.3T convertible cet hiver. As-tu des chouchous en matière de pneus d'hiver pour les chars à propulsion?
Ah, c'est une bonne question, c'est le fun. Puis oui, pourquoi pas? Si vous êtes capable de tenir le volant comme il faut, ça va être le fun. Vous allez avoir du plaisir avec ça. Moi, il y a une marque que j'aime particulièrement pour les pneus d'hiver qui sont bruyants lorsque c'est sec, mais qui mordent énormément l'hiver. C'est Gislaved. Peut-être qu'on dit Gislaved. Gislaved, en tout cas. C'est une marque norvégienne. Moi, j'adore.
Ton norvégien.
Il est pourri, mais, ouais, mais j'adore ces pneus-là. J'ai trouvé que ça mordait énormément. Puis j'ai déjà rouler ça sur un véhicule qui était propulsion, mais pas de base. Là. Il était juste brisé, fait qu'il tirait plus en avant, il poussait juste en arrière. Mais ça fait une belle différence d'avoir un bon pneu comme ça. Je pense que ça vaut la peine aussi de payer pour des bons pneus. Si vous avoir un bel hiver, allez-y dans les grosses marques, le Nokian et compagnie, je pense que ça vaut la peine.
Jonathan qui demande GR Corolla 2026, bon véhicule?
Oui, ben oui, j'ai beaucoup aimé le GR Corolla. Allez-y pour la manuelle, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a une transmission automatique qui existe. Elle n'est pas méchante, mais elle enlève un peu de caractère à ce produit-là. C'est un véhicule de puriste, puis ça vient avec plusieurs compromis. Si vous comparez ça, d'ailleurs, je vous invite, RPM, on a fait la GR Corolla contre la Golf R l'année passée. Donc, la Golf R qui est littéralement l'ennemi numéro un de la GR Corolla, parce que c'est un produit qui est plus polyvalent, qui est plus performant en accélération, qui est plus luxueux aussi, puis qui est moins cher que la GR Corolla. Donc, vous me voyez venir, choisir la GR Corolla, c'est un peu choisir d'être un fan de la marque, puis ça demeure que ça vient avec certains compromis en termes de confort au quotidien, d'espace également, de finition à l'intérieur qui sont pas au sommet, mais si vous comptez aller sur les pistes une fois de temps en temps, c'est une vraie petite bombe cette affaire-là, ça se conduit vraiment bien, la valeur de revente va être excellente aussi, puis clairement un véhicule de puriste.
Ici, on a quelqu'un qui dit, je suis toujours du genre à prendre la dernière année, fait que là, il veut dire la 2026, fait que l'année d'avant la 2027 pour la Elantra. Là, il se demande, est-ce qu'il serait mieux de prendre la 2026 parce que ce serait peut-être plus fiable ou d'y aller avec le nouveau 2027?
Bien, le nouveau 2027, on n'a pas encore énormément d'informations sur ce produit-là. On a commencé à voir des photos espionnes qui nous viennent de la Corée directement. On voit des choses ici et là. On entend parler de certaines mécaniques. Rien n'a été officiellement dévoilé pour le Canada. Donc, si vous êtes en train de magasiner puis que le changement arrive à point, allez-y pour une 2026. Je pense pas du tout que c'est une mauvaise idée. C'est un produit qu'on connaît bien, qui effectivement, vous avez fait une bonne analyse aussi. À un moment donné, d'acheter la fin d'un cycle générationnel, c'est aussi acheter le moment où l'usine est à son meilleur. On a corrigé tous les petits bobos au fil du temps. Donc, je pense que c'est une bonne idée. C'est sûr, par contre, que les Coréens ont tendance à faire un spectacle assez flamboyant lorsqu'ils lancent une nouvelle génération. Donc, je veux pas que vous m'en veniez en me disant « J'aurais voulu vivre l'expérience de la nouvelle patente. » Ça se peut que ça soit impressionnant. On a vu des nouveaux écrans d'infodivertissement. Ça a l'air d'être un produit qui va être assez innovant aussi, mais ça va venir avec un risque en termes de fiabilité, assurément. Donc, si vous êtes pressé, moi, je vous dirais allez chercher une 2026 parce que, anyway, je vous conseillerais pas la 2027 avant un an ou deux encore minimum.
Tu sais, des fois que je pose des questions qu'on reçoit puis je les comprends pas moi-même. Puis je suis toujours impressionnée parce qu'il y a toujours une réponse à toutes les questions. En voilà une. Concernant les véhicules électriques, je pense m'acheter le Silverado. J'ai vu l'histoire de la famille prise aux States.
OK, oui.
Toi, tu sais de
très
quoi,
bien.
Évidemment.
Oui.
T'en penses quoi?
Bien, l'histoire en passant, juste pour mettre les auditeurs en contexte, c'est une famille, je sais pas de quelle région, au Québec, mais une famille québécoise qui sont partis en road trip avec leur Silverado EV, avec à l'arrière de dessus une remorque, là, un campeur. Puis, sont tombés en panne à peu près deux jours après avoir commencé leur voyage. Ils ont utilisé une borne de recharge qui semblait pas être compatible avec le véhicule. Ça a brisé une composante interne. Ils n'ont jamais été capables de se faire réparer. Ils ont été pognés après ça dans les concessionnaires à attendre la pièce et compagnie. Un peu
un
le
cauchemar.
Bordel, un cauchemar. Puis là, ça a fait le tour des médias. Là, on a vu comment la GM a essayé de traiter la situation. On a vu plein de choses là-dedans. Moi, j'ai envie de vous dire, tu sais, toutes les histoires sont uniques. Après ça, c'était audacieux et courageux de vouloir se lancer dans ce genre de défi-là avec un nouveau véhicule à la base. Déjà là, c'est déjà audacieux. C'est un problème du véhicule électrique, ça, là clairement. Tu sais, là, les problèmes, on les voit arriver, surtout quand on sort du Québec. C'est que les concessionnaires ailleurs n'ont pas l'air d'être capables de les réparer non plus. Donc, si votre plan à vous, c'est de partir un peu comme la famille, puis d'aller vous promener un peu partout dans le monde, puis de profiter de ça, ouais, ça vient avec un risque, puis clairement, ça a été compliqué, là, réussir à le réparer, ce produit-là. Je pense même pas qu'il est encore réparé au moment où je vous parle. Donc, je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire. Après ça, dans la camionnette électrique, il n'y a plus grand-chose. Là. Ford a enlevé le F-150 Lightning. Il nous reste le Silverado EV. Moi, ce que j'aime jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, c'est que GM semble vouloir continuer d'en faire des véhicules électriques, semble vouloir continuer d'investir dans ces plateformes-là aussi. Donc, risque d'être un constructeur avec une réponse quand il va avoir des problèmes. Je pense à la Bolt, entre autres, qui est une petite voiture électrique bien populaire, qui va bien, qui a fait sa preuve de fiabilité. T'sais, c'est un constructeur qui sait à peu près ce qu'il fait, là. Je dis à peu près parce que c'est un peu le domaine de l'électrique, là. C'est toujours un peu risqué au départ, mais selon moi, le Silverado EV n'est pas un mauvais choix, surtout dans le contexte que vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez aller dans l'électrique, mais ça vient avec, bien sûr, un risque en termes de fiabilité, c'est indéniable.
Sam Tremblay, Michaud, une petite dernière pour toi. Là, je dois choisir, on va y aller, j'en ai pris une au hasard. Est-ce qu'on peut s'attendre à la disparition de plus petits joueurs dans le marché à cause de l'arrivée de géants chinois, par exemple Subaru qui pourrait être absorbé par Toyota?
C'est une bonne observation. Subaru, dans le cas de Subaru, entre autres, je pense qu'ici, ça va assez bien, au Canada surtout. Faut savoir que Toyota possède déjà une partie de Subaru. Je pense 33% des parts quand même, quelque chose de genre. Là. Donc, tu sais, à la base, je pense que les deux constructeurs vont toujours collaborer. Je pense pas que Subaru est à risque. Je vois d'autres constructeurs, peut-être comme Mitsubishi, Nissan aussi, de ce temps-ci, qui a de la misère à s'en sortir. Mitsubishi, qui est un petit joueur avec un petit portfolio, qui n'a pas de véhicule électrique encore. On va importer une genre de Leaf déguisé chez Mitsubishi prochainement, qui va s'appeler la Eclipse Sportback, qui va être littéralement une Nissan Leaf copiée, mais avec un logo Mitsubishi à l'avant. Mais tu sais, on voit que c'est des constructeurs actuellement qui sont plus dans la misère que Subaru, par exemple. Je pense aussi à Jeep, tu sais, Stellantis en général, là, Dodge, Jeep, Chrysler, c'est des concessionnaires qui ont fermé. Il y en a un qui a fermé sur Henri Bourassa à Québec, là. C'est rare qu'on voit ça, des concessionnaires d'automobiles fermés. Il y en a qui ont fermé aussi dans le coin de... Je sais, j'en ai vu un à Baie-Saint-Paul qui a fermé également, Duclos, quelque chose, peu importe, là. Mais on voit des concessionnaires fermés de la marque Stellantis un peu partout. C'est une marque qui a beaucoup de portfolio, justement, qui a de la misère à sortir la tête de l'eau. Les chiffres de vente ne sont pas là. Donc, moi, je pense que pour des constructeurs qui sont actuellement déjà dans l'eau chaude, l'arrivée des véhicules chinois va être effectivement dangereux. Ceci dit, c'est pas fait non plus, là, l'arrivée des véhicules chinois. Là. Si vous attendez après ça pour changer de véhicule, j'espère que votre véhicule actuel il est encore bon pour une dizaine d'années. Là. Mm. C'est pas fait.
Sam Tremblay Michaud, à quel endroit on peut te suivre et te rejoindre?
Samuel Tremblay Michaud, chroniqueur automobile sur Facebook. Je vous réponds tout le temps. Ça prend quelques jours, là, mais je vous réponds, je vous le promets. Je le fais.
Sam, un gros merci.
C'est un plaisir.
Au retour de la pause, chronique communication d'Antonine Iaccarini sur le thème aujourd'hui de l'exagération. J'ai une petite jambe bonus à apporter à ta chronique.
Une jambe?
Ben une jambe, j'apporte une jambe de plus. Là,
je ne connais pas cette expression-là, tu me l'expliqueras tantôt.
Ben une jambe, je veux dire, j'apporte quelque chose de plus, une jambe de plus. Là.
Je regarde les autres dans le studio, puis personne ne sait ce que ça veut dire à part une jambe.
T'avais-tu une jambe, mettons, de quelqu'un?
Ben non, mais dans le sens, ton sujet, moi, j'y donne une jambe de plus.
C'est-tu ta jambe?
C'est la jambe à qui?
Ben, c'est la jambe à personne. C'est une jambe de plus. J'apporte du contenu supplémentaire
Donc,
à ta chronique.
Donc, t'as pas de jambe, là?
Non, il n'y a pas de jambe. C'est... OK. Regarde, on revient.
Le retour de Boulevard jusqu'à...